J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mboujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Chaque 1er décembre de l'année, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida pour cette année 2024. Le thème retenu est sur le chemin du droit afin de mettre l'accent sur l'importance des droits humains dans la lutte contre le VIH-SIDA. Cette journée, comme chaque année, vise à mobiliser la communauté internationale et à sensibiliser la population dans la lutte contre cette maladie, mais aussi le redoubler des efforts pour atteindre les objectifs fixés dans la lutte contre cette maladie, notamment en matière de prévention, de traitement et de la lutte contre la stigmatisation. En RDC, dans le cadre des activités de lutte contre cette maladie, une campagne de sensibilisation sera lancée à partir du 7 décembre prochain. Il faudra te le rappeler, en RDC, le VIH-SIDA existe encore et qu'il revient au gouvernement congolais et à ses partenaires tant internationaux que nationaux de renforcer la lutte contre cette maladie et de mettre de moyens financiers conséquents pour la sensibilisation, le dépistage et la prise en charge des personnes infectées par le VIH-SIDA. Que pensez-vous de nos jours de la lutte contre le VIH-SIDA en RDC? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Pour aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les zones 9 716 80 79. J.C. Siala est à la mise en onde de ce magazine et Julie Feza Bongonda sur la réalisation, la coordination au micro, c'est Marcel Gomambala. Toutes et à tous, excellente condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
je
à ça.
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
On n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Bienvenue sur vous, nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens Parole aux auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre le VIH-SIDA. Comme vous savez, chaque 1er décembre de l'année, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Pour cette année 2024, le thème retenu est sur le chemin de droit. Ceci pour mettre l'accent sur l'importance des droits humains dans la lutte contre le VIH-SIDA. Et pour en parler, nous avons en ligne Ange Mavoula. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire exécutif de l'UCOF, qui est l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH-SIDA en RD Congo. Et aujourd'hui, avec vous et avec les auditeurs, on va échanger par rapport à la lutte contre cette maladie et notamment pour le thème retenu pour cette année 2024 sur le chemin de droit. Tout d'abord, cette question qui vous inspire ce thème de l'année sur le chemin de droit dans le cadre de la lutte contre le VIH-SIDA à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le SIDA pour l'année 2024.
Ouais, je dois dire que le thème est bien choisi, ça tombe à pic parce que avec tout ce qui est fait, toutes les bases qui ont été posées jusque-là, nous avons les services qui sont disponibles, nous avons les médicaments qui sont là, nous avons d'autres intrants qui sont là, même s'il y a des petits problèmes à gauche à droite par rapport à la disponibilité, mais au moins toutes les bases sont bien là. Et pour utiliser les services, il faudra que les conditions soient réunies. Si les conditions ne sont pas réunies, les services, quand bien même sont disponibles, ne seront pas utilisés. Et parmi les barrières qui font que les services ne soient pas utilisés, il y a tout cet arsenal de stigmatisation, discrimination, violation des droits et consorts. C'est pourquoi, au vu de tout ce qui existe, nous pensons que si nous mettons accent sur les droits, pour faciliter l'accès aux services, nous serons bien au rendez-vous de 2030 pour mettre fin au SIDA comme problème majeur de santé publique.
Alors vous parlez du rendez-vous de 2030 parce que, comme on le sait, il faut d'ici 2030 voir dans quelle mesure mettre fin au VIH/SIDA. Et vous pensez que par rapport à la lutte pour ce qui est de la RDC, pour ce qui est de la prévention, pour ce qui est de la prise en charge également, vous, surtout de la sensibilisation, vous pensez que tout cela se passe bien ou bien il y a une espèce de ralentissement?
Il y a un petit problème au niveau de la connaissance même du statut sérologique. Nous avons en République démocratique du Congo autour de 44 000, un peu plus de 444 000 personnes vivant avec le VIH, estimées bien sûr. Mais dans ça, il y a au moins 13% qui pourrait représenter 67 600 personnes. Ils ne connaissent pas leur statut sérologique. C'est-à-dire qu'ils sont dans la communauté, ils sont dans la population et ils circulent avec la maladie. Et tout ça, bien évidemment, ça part du premier, ce qu'on appelle la première porte, la porte d'entrée, qui est la sensibilisation pour le dépistage, justement. Et fort malheureusement, c'est thématique où... Voilà, les activités en rapport avec la sensibilisation ont vraiment été sous-payées ou sous-appuyées au niveau de la République démocratique du Congo. Ce qui fait que nous, par rapport à ce premier objectif, nous sommes vraiment en retard. Et pour le deuxième objectif, la mise sous traitement, là, au moins, on est un peu avancé, mais on n'est toujours pas encore au niveau voulu à ces jours pour vraiment espérer être au rendez-vous en 2030. Donc bref, je pense que les aspects de prévention, de sensibilisation doivent être renforcés pour permettre à ces 67 000 personnes qui sont séropositives de pouvoir connaître leur état et voilà, accéder aux services de soins.
Vous l'avez dit, il faut davantage sensibiliser, mais surtout également dépister. Mais on se rend compte également que le dépistage n'a pas aussi d'ampleur comme avant. Avant, on assistait à des dépistages au niveau de certains centres de santé, mais ce n'est plus le cas.
Oui, justement, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons parce que avec la prévalence actuelle, dans la population générale qui est de 1.2, maintenant même on parle de 0.9, c'est-à-dire qu'il faut avoir utilisé 100 tests pour espérer avoir une personne positive. Vous voyez, quand on utilise 100 tests pour avoir une personne positive, c'est vraiment, ça a un coût énorme. Et avec les études menées, on a compris que la maladie se trouve concentrée dans différents groupes, notamment les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les travailleurs de sexe, les utilisateurs de drogues et aussi les patients TB, ceux qui font la tuberculose. Et c'est pourquoi tous les efforts sont concentrés sur ces cibles. Les tests achetés sont achetés en fonction de ces cibles, ce qui fait que les autres populations qui ne rentrent pas dans ces critères ont du mal à pouvoir se faire dépister. Parce que ça a un coût énorme. Donc, du coup, je pense que les partenaires amènent ce qu'ils peuvent amener en fonction de tout ce que j'ai dit plutôt. Mais le gap devrait en principe être comblé par le gouvernement pour pouvoir faire en sorte que tout le monde qui veut bien avoir accès au dépistage puisse l'avoir. Parce qu'on peut avoir contracté, un contact à risque. Mais quand on se présente dans un centre de santé pour se faire dépister, c'est pas évident qu'on puisse vous le faire. Parce que vous n'êtes pas, vous ne rentrez pas dans les cibles pour lesquelles les intrants.
Alors, voilà, j'espère que vous êtes toujours en ligne, Ange Mavoula. Vous êtes bel et bien là?
Oui, bien sûr.
Ah, voilà. Alors, Ange, vous êtes secrétaire exécutif de l'UCOF, entendu Union Congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH/SIDA en RD Congo. Alors, parlons un peu, s'il faut en profiter, au moment où on est en train de célébrer comme chaque premier mois de décembre la journée mondiale de lutte contre le sida. Qu'est-ce que vous avez comme message à lancer aussi bien aux autorités, aussi bien aux partenaires impliqués dans la lutte contre le sida? Parce que on a comme l'impression qu'après le Covid-19, après d'autres épidémies qui touchent par exemple la RDC, comme si le sida était un peu renvoyé dans les oubliettes.
Oui, effectivement, c'est l'impression que ça donne, mais c'est pas seulement l'impression, mais c'est ça, en fait, c'est la réalité. Le sida, la lutte contre le VIH est tombé un peu dans les oubliettes. Il faut remettre ça sur la table, il faut remettre cette carte sur la table pour dire qu'on n'en est pas encore fini. Oui, le message, c'est que aujourd'hui, nous avons rendez-vous en 2030. Ce rendez-vous n'est pas fixé au hasard. C'est parce que, justement, le partenaire ou ceux qui appuient le gouvernement dans la lutte contre le VIH estime que on a suffisamment travaillé et que les avancées sont tellement énormes que après 2030, il n'est pas sûr que ses partenaires puissent appuyer tel qu'ils appuient aujourd'hui. Pour dire autrement, leur financement ou leurs appuis va de moins en moins en baisse, quoi. Donc du coup, on parle maintenant avec la notion de la durabilité. La durabilité, ça veut dire, bon, après eux, comment la lutte va être menée? Est-ce qu'il faudra continuer avec faire la même chose qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'il faudra travailler différemment et comment? Et est-ce que l'argent sera encore là? D'où la responsabilité du gouvernement de pouvoir mettre en place des mécanismes pour que après 2030, la lutte soit majorité prise en charge par le gouvernement. Il faut dire qu'aujourd'hui, les appuis dans la lutte contre le VIH sont à plus de 90% de financement extérieur. Il y a le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et le PEPFAR, le programme du président américain pour la lutte contre le VIH. Donc ce sont ces deux gros bailleurs. Si demain ils plient bagage, ça sera, et que le gouvernement ne mette pas la main dans la pâte ou ne couvre pas tous les besoins, ça sera une débandade. Et j'ai peur qu'après 2030, qu'on puisse retourner aux années 80.
Voilà, on revient vous à Ange Mavoula. On vous garde encore à l'antenne. Le temps pour nous d'ouvrir le standard pour recueillir les avis des auditeurs. Nous avons déjà Blaise Saïdi qui nous appelle depuis Kisangani. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs si vous voulez intervenir. Nous parlons aujourd'hui de la lutte contre le VIH-SIDA en marge de cette journée célébrée chaque 1er décembre de l'année où le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Et pour cette année, le thème retenu, c'est sur le chemin des droits, afin de mettre l'accent sur l'importance des droits humains dans la lutte contre le sida. Si vous voulez intervenir, le numéro d'appel, c'est 09-716-80-79.
Parole aux auditeurs.
Blaise Saïdi nous appelle depuis Kisangani. Blaise Saïdi, vous avez la parole.
Oui, bonjour cher Marcel, bonjour à notre invité, bonjour aux auditeurs de la Radio Capi. Cher Marcel.
Oui, on vous écoute.
Allô?
On vous écoute, vous êtes bien en ligne.
Oui, c'est un sujet trop pertinent concernant la sensibilisation de cette maladie qui est chronique en Afrique, dans le monde, particulièrement en Afrique. C'est trop chronique, mais au regard de la sensibilisation, j'aimerais que la sensibilisation continue. Qu'on ne continue pas seulement à penser à partir du mois de décembre, puisque la sensibilisation de cette maladie devrait commencer par la famille, les écoles, les universités, les églises. Puisque s'il y a la sensibilisation, vous verrez que non, le nombre de personnes atteintes va diminuer. Mais s'il n'y a pas la sensibilisation, les nombres continueront toujours à s'augmenter. Mais vous verrez que nous, au niveau de nos gouvernants, ils doivent songer à ce qu'on cherche à insérer les programmes de VIH-SIDA dans les écoles. Aujourd'hui, on parle d'éducation de base et les humanités. Jadis, école secondaire, école primaire. Donc, école primaire, école secondaire. Qu'on insère d'abord les programmes de VIH-SIDA. Et au niveau des universités, les cours de VIH-SIDA n'est pas tellement considéré. C'est à moins d'air et ça se donne occasionnellement. Au niveau de l'éducation de base et au niveau des humanités, avec les cours de l'éducation à la vie, les enseignants qui dispensent cet enseignement au niveau des écoles, qu'on doit plus insister, hein, que le gouvernement cherche quand même à insérer le programme de VIH SIDA au niveau de l'école primaire tout comme école secondaire. Mais vous verrez que non, ces enseignements ne se donnent pas convenablement, ne se donnent pas. D'une manière occasionnelle avec les cours de l'éducation à la vie. Mais du côté des universités, c'est aussi un autre problème. Mais comment aujourd'hui le gouvernement peut disponibiliser assez de moyens rien que au mois de décembre pour la sensibilisation, alors que non, il y a tous les moyens. Les pasteurs devraient aussi aider avec cette sensibilisation. Imaginez aujourd'hui, si nous regardons dans notre pays, nous avons plus d'églises, nous avons plus d'écoles, mais si les écoles et les églises prennent quand même cette responsabilité de sensibiliser à ce qui concerne cette maladie, je pense bien que non, on n'aura pas assez de nombre. Aussi, cher Marcel, je voulais demander un peu à notre invité qu'il nous précise d'abord concernant comparativement l'année passée, des années ici qui venaient de passer et aujourd'hui, s'il peut quand même faire une étude comparative, est-ce que le nombre de personnes atteintes de VIH-SIDA s'augmente ou ça diminue?
Voilà,
je voulais
merci.
À ce que l'invité puisse un peu nous préciser.
Voilà, merci Blaise Saïdi d'avoir appelé depuis Kisangani. Vous pensez que, d'après vous, il faut continuer à sensibiliser au niveau des écoles, mais aussi au niveau des églises, parce que le VIH-SIDA est encore bel et bien là. Merci Blaise Saïdi depuis Kisangani. On va aller à Goma. Docteur Michael Bolingo est en ligne. Docteur Michael Bolingo, vous avez la parole.
Okay, merci beaucoup. Je disais, nous savons la thématique d'aujourd'hui, cet élément capital. J'encourage ce que mon prédécesseur venait de dire. Alors, si aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis dans un hôpital de Virunga, un hôpital général, où on soigne ces personnes-là atteintes du sida. Alors, du VIH-SIDA, bien sûr. Alors, le plus grand problème que nous avons trouvé, la plupart de ces malades-là viennent dans des endroits où il y a des carrières minières. Alors, raison pour laquelle, si le gouvernement pouvait sensibiliser dans des églises, dans des écoles, dans des universités, mais il faudrait aussi organiser des séances de sensibilisation dans des carrières minières, s'il vous plaît, parce que tous les gens, tous les malades, la plupart que nous recevons, ils viennent soit des massifs, bien des ressources, un peu d'alcool, pour la plupart des cas. Loin de là, il faudrait aussi sensibiliser beaucoup plus dans des cas de réfugiés. Aujourd'hui, si vous passez dans des cas de réfugiés, c'est plus grave. C'est plus grave. Le mal avec notre gouvernement, c'est qu'il n'est pas en train de voir les conséquences. Toutes ces personnes-là atteintes ont des familles. Alors, aussitôt, ils périssent, ce sont ces enfants qui restent en difficulté. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Mais toutefois, nous devons quand même montrer au gouvernement qu'il a une très grande responsabilité. Il doit jouer son rôle, vraiment doit jouer son rôle, doit passer par ces hôpitaux-là qui sont en train de prendre ces malades en charge et les savoir. Donc, j'insiste, sensibilisation dans des carrières minières, la sensibilisation dans des cas de réfugiés. Il y a aussi des boîtes et des gambas. L'un de là, je voudrais aussi proposer au gouvernement de faire dans la mesure du possible. Comment prendre en charge les drépanocytaires, s'il vous plaît? Parce que nous avons beaucoup de cas de drépanocytaires dans nos hôpitaux qui ne sont pas pris en charge. Voilà un peu ce que j'avais ajouté. Mais toutefois, nous saluons la thématique de
vos. Merci beaucoup, Dr. Michael Bolingo. Lorsque vous parlez des drépanocytaires, vous voulez parler des personnes qui souffrent de l'anémie SS. Merci beaucoup et surtout, vous avez également insisté au-delà des églises, des écoles, comme l'a proposé Blaise Saïdi. Il faut également voir comment sensibiliser davantage au niveau des sites miniers parce que, d'après vous, dans les carrières minières, il y a beaucoup de cas qui vous arrivent. Là, vous êtes à vous soigner, vous n'avez pas de l'hôpital de Virunga, des personnes qui sont infectées du VIH-SIDA et qui viennent de ces carrières. Merci. Docteur Michael Bolingo d'avoir appelé depuis Goma. On revient à Kinshasa. Maître Gaston est en ligne. Bonjour.
Bonjour, mon cher. Comment vous allez?
Ça va bien, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la lutte contre le VIH/SIDA?
Bon, est-ce que cette maladie existe encore au Congo?
Mais on vous dit que ça existe encore.
Plus parler de...
Justement, voilà pourquoi voilà pourquoi il faut rappeler que la maladie existe toujours.
Non, mais à l'époque de Covid, nous n'avons pas entendu des résultats de tests évoquant la gravité de cette maladie comme on l'a toujours connue. C'est pour ça que j'ai dit qu'à chaque fois qu'il y a l'apparition d'une nouvelle maladie, les anciennes maladies disparaissent, hein, comme actuellement en RDC. L'actualité, par exemple, c'est ce virus-là, variole de singe, comme on est en train de l'appeler, qui est d'actualité. Tous les efforts sont focalisés vers là.
Mais justement, on en a parlé avec l'invité. Il y a toutes ces épidémies qui ont fait ombrage au VIH/SIDA. Le VIH/SIDA existe bel et bien, même si le taux de prévalence, mais c'est qui est vrai, le taux de prévalence n'est plus comme avant. Aujourd'hui, on parle de 1,2%, voire même, selon notre invité, 0,9% des taux de prévalence. C'est-à-dire que, avec le temps, la maladie a pris du recul, mais la maladie existe bel et bien. Et voilà pourquoi, au niveau de l'OMS, au niveau de la communauté internationale, on a mis des mécanismes pour voir dans quelle mesure mettre fin au VIH/SIDA depuis d'ici 2030. Et en RDC, on parle de, il y a un certain ralentissement de la lutte. Vous avez suivi notre invité qui a dit actuellement, c'est plus le financement externe, hein, qui permet de continuer à lutter contre le VIH/SIDA. Voilà pourquoi l'invité a interpellé le gouvernement aussi à mettre davantage de moyens dans le cadre de la sensibilisation, de la prévention et également du traitement de cette maladie. Alors, qu'est-ce que vous pensez à ce jour de la lutte contre cette maladie, Maître Gaston Gandou?
Oui, je voulais aussi demander un peu à l'invité qu'est-ce qui a fait que la maladie puisse sensiblement diminuer comme ça. Parce que je pense que ça peut être le fait que la population est déjà éduquée. Hein? Bon, faut vraiment prendre en considération cet acquis si c'est cela. Parce que j'imagine mal qu'il y ait plus de contamination aujourd'hui et pourtant des relations sexuelles, par exemple, qui est parmi les moyens, la contamination est toujours en actualité. Je pense que tous les moyens que se transmettait cette maladie est toujours d'actualité. Mais qu'est-ce qui peut faire que dans notre pays, parce que j'ai entendu, c'est pas seulement notre pays, il y a la plupart des pays subsahariens, on a vu ces taux de prévalence là, taux de prévalence baisser. Qu'est-ce qui peut être, quel est le facteur qui a fait que cette maladie puisse diminuer juste à ce stade-là? Et puis, je voulais un peu enchaîner pour dire que, vous savez, dans notre pays, on a une conception, une mauvaise conception de la maladie que nous qualifions aussi ici de VIH/SIDA. C'est une maladie, lorsque vous êtes, je ne sais pas, d'abord, je voulais demander aussi sur le plan des tests qui sont faits. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un problème à ce niveau-là? Parce que lorsqu'on vous cite comme un sidaïen, sachez que non, ne serait-ce que par cette annonce-là qui est d'ailleurs publique, vous serez conduit précipitamment à la mort. C'est pour ça, d'ailleurs, plusieurs n'aiment pas aller à l'hôpital pour aller faire les tests, parce que des fois, ils sont en bonne santé. Lorsqu'ils sont annoncés, ils ont décidé d'annoncer.
Voilà pourquoi on parle également de renforcer la lutte contre la stigmatisation. Voilà. Merci, Maître Gaston.
Je voulais demander un exemple rapidement. Une maman qui venait de décéder. Une maman qui est décédée trois ans passés.
Oui.
On l'avait attrapée. Il avait cette maladie. Mais son mari jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est 5 ans déjà passé. Le mari qui est resté, mais est toujours en forme. Il n'y a aucun signe, hein. Est-ce que
la maladie comme
le sida comme la sorcellerie, qu'on peut aussi
Voilà, merci beaucoup, Maître Gaston Gandou, d'avoir un peu de pique Kinshasa. On reste à Kinshasa pour écouter Badesi Omega, Christian, il est juriste. Badesi Omega, Christian, vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur le présentateur. Je vais intervenir beaucoup plus dans le sens d'abord des consommateurs, parce que lorsque la thématique sort comme ça, et en entendre, lorsque je lis un peu les documents explicatifs de la thématique, vous vous rendez compte qu'on y parle même du droit et que nous devrions nous attendre d'abord à ce que la maladie, puis le sida, mais à deux volets. D'abord, il y a la sensibilisation que nous attendions, que ce soit par des organisations internationales, que ce soit par le gouvernement et autres, mais on ne devrait pas se limiter par là. Il y a un vrai stigmate au niveau de nous, consommateurs. Vous retiendrez avec moi que lorsque un jeune comme ça veut s'approprier, ne serait-ce que du préservatif, il a problème d'abord dans l'achat. Il arrive, mais ne serait-ce que dire lorsqu'il y a d'autres personnes qui veulent acheter le préservatif, alors qu'un élément très important pour lutter contre le sida, mais c'est tout un problème. Lorsqu'on interroge quelques pharmaciens, la vente de ces produits se fasse comme si c'était une honte. Et à ce point-là, on se rend compte que soit la sensibilisation ne rythme pas avec nos valeurs d'abord coutumières, qui fait que l'adhésion n'est pas tellement enthousiasmique. Et de l'autre côté, vous entendrez le gouvernement lancer des projets, des campagnes, mais sur le terrain, quand on va au marché, le préservatif, par exemple, la marque OK, se vend à 500 francs, à certains, d'autres le vendent à 1000 francs, mais on se pose la question. Je prends l'exemple, quand vous êtes au sud que vous êtes vers Essence, quand vous êtes à Kinshasa, vous êtes vers Pacajuma, quand vous êtes dans des milieux un peu reculés, est-ce que tout le monde a cette possibilité-là de s'approprier, d'avoir le préservatif, par exemple, pour lutter contre ce fléau-là. Mais vous vous rendez compte, cher présentateur, que nous nous retrouvons que dans le projet ou la thématique ou le projet en question, théoriquement, c'est très important, on parle de l'accompagnement, on parle, mais sur terrain, pratiquement, et ça n'arrive pas à aboutir à l'objectif que le projet devrait toucher. Et là, c'est très grave, on s'arrêtera à en parler, on s'arrêtera à bien développer des théories, mais sur le terrain, la maladie va continuer à faire son action.
Alors, si je vous comprends bien, vous voulez dire qu'il faut faciliter l'accès des jeunes aux préservatifs, c'est ça?
Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Vous vous rappelez que, par exemple, lorsqu'il y avait le jeu de la francophonie, le préservatif était donné de manière gratuite. On ne payait pas. On appelait la jeunesse à en prendre. Mais si le préservatif était disponible dans certaines pharmacies, dans des autres, mais on allait arriver à un moment où même cette maladie-là allait ralentir le pas de son expansion. Mais tenez un peu, il y a eu en un certain moment une campagne, il y avait, je crois que c'était un programme qui amenait la jeunesse d'abord à venir se dépister, après le dépistage, mais même là-bas, l'accès à des préservatifs n'était pas facile. On devrait d'abord vous demander de faire le dépistage. Il y a tout un problème, voilà, même là, parce que pas tout le monde qui a
accès de faire le dépistage. Merci, on a compris, Badesi Omega, Christian, vous insistez sur le fait que c'est bon de sensibiliser, mais il faut voir aussi dans quelle mesure faciliter l'accès aux préservatifs pour une sexualité responsable. Merci d'avoir appelé depuis Kinshasa. Vous êtes à Kinshasa. On va aller à Bounia. Tagamile, Jonathan est en ligne. Tagamile, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup pour m'avoir associé, Marcel, et merci pour la thématique. Alors, j'ai lu les dernières statistiques de l'ONICIDAN, à travers autres de 2023, qui révèlent que 1,3 million de personnes ont été affectées, nouvellement affectées alors, et 38,9 millions de personnes vivent et vivaient avec cette maladie de VIH-SIDA. Alors, c'est-à-dire 630 000 de personnes décédées à suite de cette maladie. Ça, ce sont les statistiques que l'ONU-SIDA présentait justement pour l'année 2023. Vraiment, cette maladie, cher Marcel, nous ne devons pas vraiment nous croiser les bras par rapport à cela. Ça constitue aussi un problème de santé publique et un problème de santé majeur. Alors, je remercie et je félicite l'OMS qui est toujours en train de consacrer les efforts à la dans le sens d'éradiquer, bon, t'as soifé à chercher d'éradiquer cette maladie, car bien même que ce n'est pas encore vraiment totalement fait. Alors, j'aimerais poser quelques questions à l'invité. J'aimerais savoir si quelle est l'espérance de la vie d'une personne atteinte, par exemple, de VIH-SIDA. Et à très autre sujet, j'aimerais poser si est-ce que le sida est-il une infection sexuellement transmissible ou soit c'est une maladie comme toute autre maladie. Mais également, nous savons que la mort infantile que l'OMS a soulevée par rapport à cette maladie de sida, cher Marcel, cela aussi enseigne un peu de pousser nos réflexions très loin. Qu'est-ce que le PNLP a pris comme précaution justement pour barrer cette mortalité pédiatrique due à cette maladie de la VIH, du VIH et sida plutôt, voulais-je dire. Ce sont là mes quelques questions que j'aimerais poser. C'est Tagamile depuis l'Université Shalom de Bouni.
Voilà, merci Tagamile. Jonathan, depuis Bouni, on revient à notre invité Ange Mavoula. Vous avez suivi les interventions des uns et des autres. Il y a ceux qui ont peut-être estimé qu'à ces jours, peut-être que la sensibilisation a porté des fruits. Voilà pourquoi le taux de prévalence a baissé. Il y a ceux qui estiment et également qu'il faut continuer à sensibiliser dans les églises, dans les écoles, mais surtout aussi dans les carrières minières, comme l'a évoqué Dr. Michael Bolingo, qui nous a appelé depuis Goma. Ange Mavoula, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Ouais, merci beaucoup. Je remercie nos invités.
Les intervenants.
Les intervenants, voilà, les intervenants qui suivent avec intérêt ces échanges. En fait, il faut dire que la lutte contre le VIH, comme plusieurs autres domaines dans ce monde, est dictée au niveau global. Il y a des orientations qui viennent du niveau global. Il y a des statistiques qui se font au niveau global et qui ont des répercussions au niveau national. Au niveau global, on a constaté qu'on a suffisamment travaillé sur les aspects de sensibilisation, que mettre encore beaucoup plus d'argent dans ces domaines qui est supposé être déjà connu de la grande majorité de la population serait pénaliser d'autres aspects qui pourront bénéficier de ces moyens. Donc du coup, c'est vrai que c'est au cas par cas. Maintenant, il faut, ça c'est la vision au niveau macro. Maintenant, il faut contextualiser au niveau de la RDC. Je vous ai dit qu'il y a 13% des personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Avant, ce n'était pas 13%, c'était beaucoup plus que ça. Donc du coup, c'est vrai, le souci est là de pouvoir renforcer la sensibilisation. D'ailleurs, je vous annonce que le samedi 7 décembre, nous allons lancer une campagne de sensibilisation à envergure nationale, une grande campagne de prévention et de sensibilisation qui sera lancée le samedi 7 ici à Kinshasa, et ça concerne tous les pays. C'est vrai que nous allons par phase, on commence avec 6 provinces et après on pourra étendre dans d'autres provinces. C'est vrai aussi que dans le cursus scolaire, le VIH est enseigné, comme Blaise l'a dit, mais c'est pas très très intensifié avec un nombre d'heures réduit. Donc c'est ce qu'il faudra peut-être faire, revisiter les horaires et la matière qui doit être administrée pour pouvoir que ça soit connu de tous. En fait, déjà un enfant au niveau scolaire et connaît ce que c'est le VIH, connaît le mode de contamination, ça éviterait beaucoup de contaminations dans l'avenir. On peut mettre ça dans la cour d'éducation à la vie, comme tu as dit. Comparativement à l'année passée, d'ailleurs aux années passées, il y a une baisse sensible de contamination au niveau mondial comme au niveau des pays. En RDC par exemple, vers les années 2010 et aujourd'hui, il y a une baisse de 58% de contamination. Donc ça veut dire que même l'année passée, s'il faut comparer à cette année, il y a une différence énorme. Le nombre de contaminations ont baissé. Et on va de moins en moins à des contaminations élevées. Cela est dû à beaucoup de facteurs. Il y a notamment la connaissance des modes de contamination, même s'il y a des gens qui ne connaissent pas. Et ça permet d'éviter justement les contaminations. Il y a aussi le plus grand facteur, c'est la mise sous traitement des personnes vivant avec le VIH. Je dois vous dire qu'une personne vivant avec le VIH qui est sous traitement, qui prend bien ses médicaments, et là ça répond aussi à la question de la dernière intervenant. Si une personne va avec le VIH prend normalement bien ses médicaments, la contamination est zéro, presque nulle. Donc ça veut dire qu'il peut faire des rapports sexuels sans protection, sans préservatif, elle ne va pas contaminer son partenaire. Ça, c'est le moyen, voilà, le principal moyen de prévention. On prend le médicament comme traitement, mais aussi comme prévention. Donc, une personne séropositive qui prend les médicaments ne contamine pas. Donc ça rentre aussi dedans. On a un nombre élevé de personnes qui sont sous traitement, ce qui fait que les contaminations diminuent. C'est tout à fait normal. Dans le plan stratégique national de lutte contre le sida, si vous voyez, il y a des stratégies justement adressées au niveau des sites miniers. Les carrières minières sont des cibles de la prise en charge du VIH. Ce sont des cibles prioritaires pour la prise en charge du VIH. Encore une fois, j'ai dit, le plan national, le plan stratégique national, c'est notre plan, c'est le plan du pays. Les partenaires viennent en appui du plan stratégique. Donc, les partenaires ne peuvent pas gober tout le plan stratégique, mais cherchons là où mettre un peu plus d'accent pour sur des leviers qui peuvent avoir des influences sur d'autres domaines. Donc, on ne peut pas tout prendre, mais le reste, c'est le gouvernement. Mais aussi, il faut aussi cibler miser sur la coopération publique-privée. Il y a les entreprises privées. Dans des mines, là, il y a quoi? Ce sont des privés. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont même des programmes de lutte contre le VIH. C'est question de les approcher, de voir comment développer les stratégies pour justement travailler dans leur carrière, parce que c'est leur main d'œuvre. En fait, si les personnes qui sont dans les carrières ne produisent pas parce qu'ils sont malades, du coup leur production aussi sera affectée. Donc il y a ce partenariat public-privé qu'il faut développer pour justement mener la lutte dans différents domaines. C'est vrai qu'on voit seulement au niveau national, mais la coordination est à tous les niveaux. Il y a des mobilisations des ressources au niveau national, il y en a aussi au niveau provincial. Dans le Haut-Katanga, c'est plein de mines. Donc, c'est plein d'entreprises minières, et comme dans le Kivu. Donc, cette coopération doit être aussi exploitée pour justement pallier à d'autres cibles, trouver d'autres cibles qui ne sont pas prises en charge par les partenaires qui appuient jusque-là. Dans les camps des réfugiés, voilà, et les boîtes d'engrais qu'on sait. Revenons sur les camps des réfugiés. C'est vrai qu'il y a, ce sont des zones humanitaires. Les interventions ne sont pas des interventions ordinaires, parce que ce sont des zones de catastrophe, ce sont des personnes qui sont en mouvement. Il y a une stratégie appropriée pour justement mener des interventions dans ces zones. Dernièrement, nous, on était dans le camp des réfugiés du Nord Kivu, Sud Kivu, et puis à Ituri. On a fait une identification des personnes vivant avec le VIH dans ces zones pour justement leur apporter un paquet minimum de services. Il y a une stratégie qui est en train d'être développée entre le pays et OCHA qui pilote bien évidemment cette thématique au niveau du pays, pour justement avoir un plan d'intervention avec un paquet minimum dans ces sites-là. Aussi quand les réfugiés, les zones à conflit et les choses comme ça. Les boîtes d'Enganda, oui, c'est vrai. Donc, il y a des sensibilisations qui se font. Je vous ai parlé de groupes de minoritaires comme des travailleurs de sexe, comme des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, comme des utilisateurs de drogue. Ces gens-là, vous les trouvez où? Vous les trouvez principalement dans l'Enganda. On appelle ça, nous appelons ça le point chaud. Donc, c'est là où on les trouve. Comme je l'ai dit, c'est vraiment ciblé, c'est vraiment minime. Ça dépend des moyens que nous avons. On ne peut pas aller dans tous les Ngandas si on n'a pas les moyens d'y aller. Parce qu'il faut se rendre compte, si on crée une demande, il faut pouvoir répondre. Il ne faut pas sensibiliser. Après, vous avez 1000 personnes qui débarquent chez vous et vous n'avez pas d'intrant pour les dépister. Donc, c'est ça. En fait, quand on crée une demande, il faut avoir déjà les moyens pour adresser cette demande. Oui, de plus en plus aussi, il y a l'intégration d'autres pathologies avec le VIH, parce qu'on sait qu'une personne qui vient avec le VIH a une immunité qui n'est pas très très élevée, c'est-à-dire que s'il est contacté par d'autres pathologies, du coup ça fragilise son immunité et ça fait précipiter sa mort. Donc il y a de plus en plus cette intégration d'autres pathologies qui sont développées. Mais jusque-là, on n'a pas encore intégré la drépanocytose dans cette...
Voilà.
On ne peut pas non plus parler du coup.
Voilà, permettez. Oui, vous allez allez-y, comme ça on va pas le dire notre auditoire. Vous allez ajouter quelque chose là, oui.
Pour les églises, en fait, il y a le CIC qui est le comité interconfessionnel qui lutte contre le VIH. Donc, nous avons toutes les grandes confessions réunies qui ont un comité de lutte contre le VIH en son sein. Mais c'est vrai que vous serez d'accord avec moi que maintenant, il y a les églises qui se créent chaque jour et qui disparaissent aussi chaque jour à tel point qu'on ne pourra peut-être pas avoir cette impression que quelque chose est fait à ce niveau. Monsieur Gaston, votre terme sidéen, hein, je m'excuse, mais il faut vraiment le retirer. C'est un terme très péjoratif. Voilà, c'est ce qui fait justement la stigmatisation. Donc là, vous êtes en train de stigmatiser les personnes qui vont avec l'hiver, peut-être sans le savoir. Donc, ce sont des termes comme ça, péjoratifs, qui font que les personnes, quand il est VIH positif, voilà, cherchent à se retirer ou à vivre en clandestinité. Donc, c'est une personne qui est malade, comme toute autre personne, et il n'y a pas de terme sidéen. Le malade du VIH, c'est tout. Et ce n'est pas une sorcellerie, c'est une maladie qui existe. Je vous ai parlé de la non-contamination d'une personne qui prend bien les médicaments. Qu'on soit dans un couple, si un partenaire est positif et qu'il prend des médicaments, il ne va pas contaminer l'autre. C'est pas la sorcellerie. C'est ça.
Voilà, c'est pas la sorcellerie, c'est une maladie comme toute autre. Permettez de prendre le dé d'un auditeur et puis on va conclure avec vous. Jérémy Mamba, vous êtes à Lubumbashi, on vous écoute. Vous avez 2 minutes, on vous écoute.
Oui, bonjour Monsieur Marcel, hein. Bonjour également à l'invité. Je pense que cette journée est vraiment commémorative, n'est-ce pas, en ce qui concerne les personnes vivant avec le VIH. Nous sommes en train de voir que ça ne prend pas du tout une forme ici dans notre pays quand il s'agit de la sensibilisation. Moi, je pense que de la même manière que nous avons eu à qu'on a eu à le faire avec le coronavirus, il fallait peut-être s'y employer parce que nous sommes en train de voir que ces registres échappent à beaucoup. Moi, je pense qu'il faut installer un dispositif sanitaire à tous les niveaux, que ce soit dans la maternité où les mamans s'accouchent, également dans les milieux où il y a l'attractivité dans les comportements non considérables. Et aussi, il faut peut-être à ce net moment voir, parce qu'il y a certaines entreprises qui sont peut-être où on trouve aussi un grand pourcentage, mais qu'on néglige assez. Alors, on assiste toujours à des décès récurrents et tout ça. Moi, je pense qu'il faut que dans chaque entreprise, si l'État veut bien maîtriser les choses, c'est pourquoi, vous voyez, il y a certaines choses qui nous échappent. Même pendant les élections, vous voyez, souvent, on ne maîtrise pas la démographie. Donc, il fallait commencer par là. Donc, faire les statistiques réelles pour connaître combien nous avons les patients qui souffrent réellement, qui sont les personnes vivant avec le VIH, doivent être vraiment répertoriés sur toute l'étendue de la République. Surtout dans les milieux en proie d'insécurité, etc. Les milieux tels que les terrasses, etc. Même dans des milieux de carrière, il faut que l'État congolais puisse mettre un dispositif considérable pour pouvoir, n'est-ce pas, répertorier. Comment on peut faire? Dans chaque entreprise, ou soit dans un grand hôpital, on peut associer toutes les entreprises.
Voilà, merci. On a plus assez de temps, Jérémy. On a plus assez de temps maintenant. Retenu, vous insistez sur comment faire pour identifier ou dépister toutes les personnes qui ont le VIH/SIDA. Merci, Jérémy. On prend le tout dernier, Ismaïla Kamango, depuis Kindu. Ismaïla, vous avez la parole.
Oui, bonjour M. Marcel, bonjour aux auditeurs de Radio Kapi. Vous savez, monsieur journaliste, la thématique débattue aujourd'hui, c'est une thématique qui est vraiment principale, auquel nous avons plusieurs victimes du VIH-SIDA. Mais, M. Marcel, moi je me pose une question, c'est pas pourquoi il y a eu le système de la décentralisation. Parce que aujourd'hui, nous avons tendance de donner à l'État vraiment la charge. Or, il y a décentralisation. Donc, ça veut dire que le gouvernement central est vraiment, dans un sens là, toutes les responsabilités lui sont revenues. Or, dans la province, nous avons les ministères de la Santé qui peut s'occuper des vulnérables de la maladie en question. Alors, moi je m'en vais vraiment plus particulièrement dans les provinces où il y a lieu que les ministères de la santé au niveau provincial puissent se prendre en charge, chercher comment donner au moins des mécanismes pour chercher comment sensibiliser la communauté. C'est vrai que le gouvernement central a aussi sa part pour contribuer
à la sensibilisation, à la mobilisation. Ismaïla, pour vous, au-delà des efforts... Ismaïla, s'il vous plaît. On n'a plus assez de temps. Vous êtes revenu sur ça, vous avez insisté, on a compris votre idée, vous voulez parler qu'au niveau également du gouvernement provincial, des provinces, il faut qu'on essaie de sensibiliser la lutte. C'est ça l'essentiel de votre idée, on a compris, on n'a plus assez de temps. C'est-à-dire il y a le gouvernement central qui travaille, mais vous avez souhaité qu'au niveau aussi des provinces, qu'on puisse vraiment... renforcer la lutte. Merci, vous aurez le temps de parler prochainement. Ismaïla Kamango, depuis Akindo, revient à notre invité parce qu'il faut conclure. Le temps est parti à ce magazine, elle touche presque à son fin. Voilà, Ange Mavoula, vous avez dit, vous l'avez répété, le sida est toujours bel et bien là, mais il faut davantage continuer à sensibiliser, et pour cela, il faut deux moyens, de la part également du gouvernement, parce que jusque-là, c'est plutôt le partenaire externe qui continue à appuyer cette lutte. Ange Mavoula.
Ouais, par rapport au VIH pédiatrique, il y a notre ami qui avait posé la question. Il y a un plan d'élimination du VIH pédiatrique qui est développé aussi au niveau mondial et même répercuté au niveau du pays pour justement cibler les enfants. Jérémy, en fait, vous avez dit tout ce qu'on a dit dans les entreprises, dans les maternités, le point chaud, j'en ai parlé. Il y a des stratégies par rapport à ça. Maintenant, là, par exemple, aujourd'hui, mes amis du bureau sont à la FEC pour justement développer un plan opérationnel de lutte contre le sida pour les entreprises. Donc ça, on le fait. Mais vous voyez aussi, je parle de l'étendue du pays et des besoins du pays qu'on ne peut pas couvrir avec seul le partenaire. Nous avons la couverture santé universelle. C'est une stratégie aussi du gouvernement qui touche justement tous les aspects, toutes les pathologies, dont le VIH comme pathologie ciblée. Donc, il y a des stratégies qui beaucoup est fait au niveau du gouvernement qu'on n'arrive peut-être pas encore à voir l'ampleur. Les gouverneurs provinciaux sont les présidents
rapidement.
Voilà. Par exemple, ici, un dernier mot, c'est justement rappeler le gouvernement ses droits. Nous avons là l'un des bailleurs de fonds, le Fonds mondial, qui demande que le gouvernement puisse payer 5 millions de dollars pour des dépenses non éligibles. Au cas contraire, il va couper 14 millions sur la subvention en cours. Tu vois les autres responsabilités pour lesquelles il y aura impact sur les activités.
Voilà, Ange, voilà, on va revenir, on a placé des tonnes vraiment à la fin, on va revenir par rapport à ces sujets. Merci d'avoir été de notre, Ange Mavoula. Je rappelle, vous êtes secrétaire exécutif de l'ICOF, qui est l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH et la RDC. Merci d'avoir été de notre, on espère vous retrouver prochainement. Fin de ce numéro des paroles auditeurs de séjour. À très bientôt.